Et si en parlant des lésions ligamentaires du genou, je vous disais que la clinique est au médecin ce que le braille est à l'aveugle. À l'examen clinique, le contact visuel direct avec la réalité anatomique du ligament est irréalisable. Il faut pourtant vous en faire une idée aussi précise que possible au travers de signes lésionnels indirects. Pour surmonter ce handicap visuel, je ne suis pas certain que l'apprentissage du braille vous soit d'un grand secours. Mais j'ai mieux, j'ai beaucoup mieux à vous proposer. Le principe est simple. D'abord, acquérir une connaissance parfaite du genou normal, à commencer par son anatomie. Puis se familiariser avec les mécanismes du mouvement articulaire, c'est-à-dire la cinématique. Posséder de bonnes notions de biomécanique, étude des forces et des contraintes qui s'exercent sur le genou. Maîtriser la corrélation anatomo-fonctionnelle qui existe entre la lésion ligamentaire anatomique, qui est invisible, et sa répercussion fonctionnelle, la laxité, qui elle est testable cliniquement. Finalement, il reste à apprendre à différencier cliniquement les différents types de laxité pour en déduire la lésion anatomique sous-jacente. Alors, vous êtes intéressé par ce programme? Plus un instant à perdre, venez avec moi. Le genou est un complexe articulaire classiquement défini comme ayant deux composantes. Premièrement, l'articulation fémoro-patellaire, qui voit s'articuler les facettes postérieures de la rotule sur la face antérieure de la trochlée fémorale. Articulation qui possède une physiologie propre et qui n'offre guère d'intérêt pour nous qui nous intéressons au problème des laxités ligamentaires. En effet, celle-ci s'exprime au niveau de la deuxième composante articulaire, l'articulation fémoro-tibiale. Les condyles fémoraux internes et externes vont entrer en contact avec les plateaux tibiaux correspondants, réalisant deux entités fonctionnelles distinctes de conception très différente, respectivement les compartiments internes et externes. Le compartiment interne est synonyme de stabilité. Il associe une coaptation articulaire efficace, assurée par un système ligamentaire puissant, et une complémentarité géométrique certaine, entre la convexité de la poulie condylienne et la concavité de la glène tibiale. À l'opposé, tout concourt à faire du compartiment externe le compartiment mobile du genou. Tout d'abord, la coaptation articulaire y est moindre, liée à une faible tension de l'appareil capsulo-ligamentaire. De plus, il existe une incongruence articulaire évidente entre un condyle fémoral tordu sur son axe sagittal, en forme de haricot, et un plateau tibial convexe. Entre les deux condyles, l'échancrure intercondylienne, au sein de laquelle vient s'imbriquer le massif des épines tibiales. Parfois décrite comme une bicondylienne, l'articulation du genou fonctionne en fait plutôt comme une trochléenne, mais trochléenne modifiée qui permet ainsi 2 degrés de liberté. Dans le plan sagittal de flexion-extension, un judicieux dosage de mécanismes roulement-glissement entre les surfaces fémorales et tibiales permet d'éviter une subluxation postérieure précoce du fémur et ainsi d'atteindre une grande amplitude de mouvement de l'ordre de 150 degrés. Dans le plan horizontal, une genèse embryologique incomplète de la crête trochléenne, présente sous forme du massif des épines, autorise les mouvements de rotation dont l'amplitude varie selon le degré de flexion du genou. En extension, le carrossage des surfaces articulaires verrouille le genou et interdit toute rotation. La flexion la libère progressivement pour atteindre son maximum de 29 degrés à 60 degrés de flexion et n'être plus que de 26 degrés à 90 degrés de flexion. Dans le plan frontal finalement, aucun mouvement physiologique. Seule est possible une adaptation aux contraintes en varus valgus. Pour chaque position, on peut définir par méthode géométrique des axes instantanés de flexion et de rotation autour desquels vont s'effectuer les mouvements. Les aires de flexion ou de rotation correspondent à l'ensemble des axes instantanés respectifs. Dans le plan sagittal, l'axe instantané de flexion recule en même temps que la flexion augmente. Suivant une courbe à peu près concentrique à la surface condylienne. Dans le plan horizontal, l'axe de rotation se situe légèrement en dedans de l'épine tibiale interne et recule au cours de la flexion, en décrivant une courbe autour de l'épine tibiale interne. Les plans de flexion et de rotation sont sensiblement perpendiculaires et leur intersection définit un lieu géométrique sur lequel se situe le centre articulaire du genou. Celui-ci correspond donc au point d'application des forces multidirectionnelles qui s'exercent sur le genou.
Articulation est synonyme de mouvement, mais mouvement sous-entend moteur. Ce rôle incombe aux muscles périarticulaires. Voyons un petit peu maintenant les caractéristiques techniques de ce moteur.
La force motrice engendrée par la contraction des cellules musculaires est une force à intensité variable, mais à direction fixe. Sa puissance varie proportionnellement à l'importance de la contraction, mais sa direction reste parallèle à l'axe longitudinal de la fibre musculaire. Les conséquences biomécaniques d'un tel système sur le genou vont dépendre non seulement de l'orientation spatiale intrinsèque de la force musculaire, mais également de la localisation du point d'application de la force par rapport au centre articulaire du genou. Prenons le cas où la force et son point d'application se situent dans le plan de l'axe de flexion. Le muscle est alors dépourvu d'effet fléchisseur ou extenseur, il n'est que rotateur. Il en va de même si la force et son point d'application se trouvent dans le plan de l'axe de rotation. Le muscle n'est alors que fléchisseur ou extenseur. Dans toutes les autres situations, la force motrice agit sur les deux axes simultanément et a donc un effet rotateur et fléchisseur. L'importance de l'impact fonctionnel est proportionnelle à la distance qui sépare le point d'application des axes respectifs. Dans le cas présent, le muscle est fortement extenseur et modérément rotateur. Nous pouvons ainsi dire du quadriceps qu'il est fortement extenseur et que très modérément rotateur interne. Les muscles jumeaux sont fléchisseurs puissants, mais dépourvus d'effet rotateur, puisque leur force motrice passe par le plan de l'axe de rotation. Quant aux groupes musculaires latéraux, ils sont dépourvus d'effet moteur en extension, la force motrice passant simultanément par les axes de flexion et de rotation, alors qu'avec la flexion, du côté interne, les muscles de la patte d'oie sont fléchisseurs et rotateurs internes, du côté externe, le biceps et le tenseur du fascia lata sont fléchisseurs et rotateurs externes. En plus de la force motrice qui agit sur les axes du CAG, la contraction musculaire engendre des forces perturbatrices. Ainsi, l'effet moteur du quadriceps est associé à une force sollicitatrice sur le tibia. De la position d'extension maximale jusqu'à 60 degrés en tiroir antérieur, puis en tiroir postérieur. Ces forces n'agissent plus sur les axes du CAG, mais sur sa position. De même, les muscles jumeaux vont tirer les condyles en arrière et ainsi créer une contrainte en tiroir antérieur, quel que soit le degré de flexion. Dans une articulation ainsi conçue, ces forces déstabiliseraient le CAG et compromettrait par là le fonctionnement adéquat de celui-ci. Deux systèmes stabilisateurs se chargent donc de les maîtriser. Tout d'abord, un stabilisateur dit statique, le système ménisco-ligamentaire.
Les deux ménisques, internes en forme de C, externes en forme de O, sont des formations fibrocartilagineuses d'aspect triangulaire à la coupe, qui sont longues d'environ 4 cm, alors qu'en épaisseur et en largeur, ils ne dépassent guère 1 cm. Ils sont adhérents à la capsule articulaire par leur bord circonférentiel, et ils sont fixés sur les surfaces pré- et rétrospinales des plateaux tibiaux par l'intermédiaire de leurs cornes antérieures et postérieures.
Tels des cales, ils vont stabiliser les condyles fémoraux sur les plateaux tibiaux tout en améliorant la congruence et répartissant les contraintes sur les surfaces articulaires. À côté de ce rôle stabilisateur passif, ils sont dotés d'un support musculaire actif situé au niveau des deux points d'angle, semi-membraneux du côté interne et poplité du côté externe. Ceux-ci freinent l'avancée des ménisques pendant l'extension et les attirent vers l'arrière lors du mouvement inverse de flexion, accompagnant le recul des condyles. D'où le terme de sangle active ou passive qu'il aurait parfois attribué.
À des sangles peuvent également être comparés les ligaments. Constitués de fibres collagène aux propriétés mécaniques particulières, ceux-ci leur confèrent une certaine élasticité et donc une force de rappel stabilisatrice qui est proportionnelle à leur état tensionnel.
Le système ligamentaire du genou est composé d'un groupe central, les ligaments croisés, et d'un appareil capsulo-ligamentaire périphérique, les deux ligaments latéraux internes et externes, et postérieurement les deux points d'angle. De par leur localisation privilégiée sur le CAG, les ligaments croisés jouent un rôle stabilisateur déterminant. Le ligament croisé antérieur, ou LCA, s'insère sur le tibia en avant des épines, le long de la glène médiane, en arrière de la corne méniscale antérieure, sur une surface de 3 cm carrés d'aspect triangulaire. Son insertion fémorale se situe, elle, sur la face axiale du condyle externe, sur une surface de 2 cm carrés située dans le plan sagittal. Il est constitué de 3 faisceaux de fibres. Le plus volumineux et le plus long, 3,3 cm, le faisceau antéromédian est défini par une insertion tibiale antéro-interne et fémorale haute en arrière. Plus grêle et plus court, le faisceau postérolatéral, ainsi défini par son insertion tibiale, s'insère plus bas sur le condyle fémoral et a ainsi une orientation plus verticale. Quant au troisième faisceau, dit intermédiaire, son existence n'est pas reconnue par tous. De la position des insertions va dépendre l'état tensionnel des fibres concernées. Ainsi, la constitution en faisceaux distincts permet de conserver un contingent minimal de fibres sous tension, quelle que soit la position du genou. En extension, le LCA est vertical et les deux faisceaux sont tendus, alors qu'en flexion, ils s'horizontalisent. Les faisceaux antéromédians et intermédiaires se relâchent, mais le faisceau postérolatéral, plus vertical, reste tendu. Le ligament croisé postérieur, ou LCP, représente le deuxième élément constitutif du pivot central. Il s'insère très en arrière dans la gouttière rétrospinale, sur une surface de 0,5 cm², orienté à 45 degrés dans les trois plans de l'espace. Par son insertion fémorale, il se fixe sur la face axiale du condyle interne, au sommet de l'échancrure, orienté dans le plan sagittal. Selon le même principe que le LCA, il est constitué d'un volumineux faisceau postérolatéral de par son insertion tibiale, se dirigeant verticalement jusqu'à son insertion fémorale, haute et postérieure. Un faisceau antéromédian plus grêle, dont l'insertion condylienne est plus antérieure et basse, lui donne une direction plus horizontale. À l'inverse du LCA, le LCP a une direction horizontale lorsque le genou est en extension, alors qu'il se verticalise en flexion. Par ailleurs, le LCP est plus tendu que le LCA, quelle que soit la position du genou. Si les ligaments croisés agissent sur la stabilité du genou dans les trois plans de l'espace, ils jouent un rôle prépondérant dans le plan sagittal. Le LCA s'opposant à la translation antérieure du tibia sous le fémur, le LCP à sa translation postérieure. Dans le plan horizontal, il limite la rotation interne, le LCA s'enroulant autour du LCP. La rotation externe, par contre, échappe totalement à leur contrôle, puisque ce mouvement s'accompagne d'un décroisement des ligaments qui deviennent inefficaces. De même, le vissage du pivot central coapte les surfaces articulaires et s'oppose aux contraintes en varus valgus dans le plan frontal, alors que dévissé, leur effet stabilisateur devient minime, ce rôle incombant alors aux structures ligamentaires périphériques. Les formations capsulo-ligamentaires médianes sont représentées par le ligament latéral interne, ou LLI, et le point d'angle postéro-interne, ou PAPI. Le LLI est un ligament puissant qui s'insère proximalement au niveau du tubercule condylien interne pour se fixer distalement sur la métaphyse tibiale proximale. Sous le terme de PAPI, on regroupe les formations capsulo-ligamentaires et tendineuses situées entre le plan capsulo-ligamentaire médial en avant et la coque condylienne interne en arrière, à l'union de la face interne et postérieure du tibia. Le PAPI comprend le LOP, ou ligament oblique postérieur, invisible ici, situé entre le LLI en avant et la coque condylienne en arrière, la corne postérieure du ménisque interne, le ligament poplité oblique, le muscle semi-membraneux, élément actif du PAPI, qui renforce le lobe grâce à ses faisceaux tendineux terminaux. Le rôle stabilisateur de ces structures internes est de plusieurs ordres. Elles s'opposent aux contraintes en valgus, rôle prépondérant du LLI. Elle contrôle la rotation externe en freinant l'avancée du plateau tibial interne. Par le même mécanisme, elle limite le tiroir antérieur. Indépendamment du LLI, le PAPI limite encore le tiroir postérieur et contrôle la rotation interne. Du côté externe, on retrouve les homologues du LLI et du PAPI. Le LLE, ou ligament latéral externe, qui unit le tubercule condylien externe à la tête du péroné. Quant au papé, ou point d'angle postéro-externe, il est constitué du muscle poplité, de ses nombreuses expansions tendineuses qui forment une tente, partant en haut de la fabella ou de son équivalent fibreux, pour se terminer en bas sur la styloïde fibulaire. Cette tente forme une arcade dans sa partie inférieure, dans laquelle s'engage le tendon principal du poplité, élément actif du papé, qui, au terme de son trajet intra-articulaire, vient se fixer dans la fossette poplitée du condyle fémoral externe. Le dernier élément constitutif du papé est représenté par la corne postérieure du ménisque externe, qui se situe à cet endroit-là, mais qui est mal visualisée sur cette image. Les structures externes agissent principalement comme stabilisateurs de la rotation externe. Le tendon principal du poplité limite la rotation interne du condyle externe sur le tibia, les autres structures limitant seulement son avancée. Accessoirement, il contrôle la rotation interne en évitant le recul du condyle. Par le même mécanisme, il limite le tiroir antérieur. Il joue finalement un rôle antivirus modéré. Chaque élément ménisco-ligamentaire ainsi décrit exerce une action stabilisatrice multidirectionnelle. Leurs effets respectifs se suppliant partiellement, ils forment finalement une unité physiologique complexe. En fonction de la position du genou, du plan et finalement du mouvement considéré, nous pouvons définir une structure stabilisatrice principale que nous appellerons frein primaire et celle qui ne joue aucun rôle de suppléance, les freins secondaires. Ainsi, si l'on considère le mouvement de tiroir antérieur, genou en extension, les principales structures stabilisatrices sont le LCA pour le compartiment externe, le LLI et le papi pour le compartiment interne. Le papi joue un rôle de suppléance externe. Genou en flexion, peu de changements. Par contre, en flexion associée à rotation externe, le dévissage des ligaments croisés les rend pratiquement inefficaces, alors qu'elle met sous tension le papi. Le suppléant devient ainsi stabilisateur principal du compartiment externe. Le mouvement de tiroir postérieur. Genou en extension, le vissage des croisés fait du LCP le stabilisateur interne principal. Le papi et le LLI ne jouent qu'un rôle secondaire. Du côté externe, le papi et le LLE sont les principaux éléments limitant l'avancée du condyle externe. Genou en flexion, même raisonnement que pour le tiroir antérieur. Ainsi, en rotation externe, le papi et le LLI remplacent le LCP du côté interne. Les mouvements de rotation. En rotation interne, la mise sous tension maximale des deux croisés leur permet de stabiliser à eux seuls les deux compartiments, les structures périphériques ne jouant qu'un rôle de suppléance. En rotation externe, par contre, leur dévissage ne laisse aux croisés qu'un rôle stabilisateur secondaire, alors que les éléments stabilisateurs principaux sont le LLI et le papi du côté interne, le LLE et le papi du côté externe. Dans le plan frontal maintenant, le puissant LLI est le principal limitateur des contraintes en valgus. Le papi, puis finalement les croisés, ne jouent qu'un rôle secondaire. Les homologues externes du LLI et du papi jouent des rôles identiques dans la lutte antivirus, à cette différence près que le LLE est un ligament frêle à effet stabilisateur moindre.
Comme tout système a ses limites, le système ménisco-ligamentaire a les siennes. Elles sont liées à sa relative rigidité fonctionnelle.
Ainsi, si la force de rappel développée par un ligament peut en théorie être mise en relation avec son allongement, ces deux variables ne sont toutefois pas toujours directement proportionnelles. On distingue une phase de recrutement des fibres, où la force développée est moindre, puis une phase de déformation élastique par étirement des mêmes fibres, et finalement une phase d'allongement plastique du ligament par déchirure partielle de ces fibres, pratiquement sans augmentation de la force développée. Quant à la rupture complète, elle rendrait bien évidemment le ligament totalement inefficace. Si l'on sait par exemple que la résistance mécanique maximale à l'étirement du LCA est de l'ordre de 60 kg par centimètre carré, et que les forces sollicitatrices en tiroir antérieur, développées par une contraction du quadriceps, peuvent varier entre 0 et 400 kg par centimètre carré, il faut bien admettre qu'un système stabilisateur supplémentaire est indispensable pour suppléer et par là même protéger le système ligamentaire. Les muscles, par l'intermédiaire de leur force de coaptation articulaire, vont jouer ce rôle de stabilisateur dynamique. De plus, l'intensité de leur action stabilisatrice peut être modulée en fonction des exigences ponctuelles, de sorte à ne pas entraver inutilement la mobilité articulaire. En résumé, le déroulement physiologique normal du mouvement articulaire nécessite un état d'équilibre biomécanique où les forces musculaires perturbatrices sont maîtrisées grâce à l'action stabilisatrice passive des ligaments ainsi qu'à l'action dynamique des forces de coaptation musculaire qui assurent par là même une stabilité du CAG. Il ne se dégage ainsi de l'action musculaire globale sur le genou que l'effet moteur désiré. Nous voilà arrivés au terme de cette première cassette, au cours de laquelle nous avons essayé de vous initier au fonctionnement normal des rouages articulaires du genou, considéré comme une unité fonctionnelle abstraite. Dans la deuxième cassette, nous vous montrerons comment des forces perturbatrices extérieures peuvent occasionner des lésions anatomiques et par là même modifier l'équilibre biomécanique du genou. C'est l'étude des laxités. Nous vous apprendrons même comment différencier cliniquement les différents types de laxités.